Vous écoutez France Culture.
Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes directeur des amitiés judéo-chrétiennes. Vous avez été pendant 20 ans rédacteur au service information de la conférence des évêques de France avec le cardinal de Courtrai. Vous avez aussi travaillé avec le cardinal Lustiger. Et vous êtes encore aujourd'hui très actif au sein de la revue Sens. On vous doit de très nombreux articles et ouvrages, dont « Juifs et chrétiens, pourquoi nous rencontrer ?» en collaboration avec Mgr Jérôme Beau et Yves Chevalier. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de ce voyage du pape François en Terre Sainte. Il faut préciser pour les auditeurs que nous avons enregistré cette émission avant ce voyage et que nous faisons comme s'il se déroulait selon le programme prévu, c'est-à-dire le 24 mai à Amman en Jordanie, le 25 à Bethléem, et le 26 à Jérusalem. Si je me trompe, vous me le direz par la suite. Ce voyage est un événement de grande importance, et comme pour les précédents, un voyage sous tension. 5 ans après la visite de Benoît XVI en 2009, le printemps arabe et la guerre de Syrie ont en effet aggravé la situation, et les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens avancent trop lentement. Tension, difficulté, mais aussi une grande espérance. Car la personnalité du pape François est peu commune, c'est un homme profondément engagé pour la foi chrétienne qu'il traduit par un engagement pour toutes les femmes et tous les hommes de toute confession. C'est un homme intelligent, sensible, lucide, drôle et profondément inscrit dans le dialogue. Et ceci depuis toujours, il est accompagné dans ce voyage par deux de ses amis, le rabbin Abraham Skorka, rabbin massorti de la communauté de Buenos Aires, et d'Omar Aboud, ancien secrétaire général du Centre islamique d'Argentine et directeur de l'Institut de dialogue interreligieux, soutenu depuis 2006 par le cardinal Borglio, c'est-à-dire le pape actuel. C'est de ce dialogue interreligieux dont nous allons parler et du rôle que le pape peut jouer dans un livre de dialogue avec le rabbin Skorka que je viens d'évoquer et dont vous, Bruno Charmé, vous avez par ailleurs fait la recension dans la revue Sens. Dans ce livre intitulé « Sur la terre comme au ciel », le futur pape François dit au rabbin Skorka, et je cite, « C'est de ce dialogue interreligieux dont nous allons parler et du rôle que le pape peut jouer, non pas directement dans le règlement des conflits divers de cette région, mais comme il l'a dit lui-même, en faisant changer le regard sur les conflits. » Je me pose la question avec vous, Bruno Charmé, quelles sont ces nouvelles voies que propose, selon vous, et selon la connaissance que vous avez du pape actuel, les nouvelles voies possibles qu'il pourrait proposer, Bruno Charmé?
J'aimerais commencer ma réponse par une phrase qui m'a toujours beaucoup marqué et qui est celle du cardinal Lustiger. À propos de l'avenir du dialogue judéo-chrétien, il disait, toujours en parlant de ses amitiés avec les Juifs, « L'amitié sauvera le dialogue ». Dieu sait qu'il y en a eu des accidents au cours des dernières décennies, pensons au Carmel d'Auschwitz et à bien d'autres. Et ces problèmes ont été dépassés par une plus grande connaissance intime entre Juifs et chrétiens. Avec le pape François, il y a là encore une histoire d'amitié. Elle est, vous l'avez rappelé, avec donc cette grande amitié avec le rabbin Skorka de Buenos Aires et ce livre, publié en espagnol en 2010, à l'époque où le pape François n'était que, entre guillemets, le cardinal Bergoglio. Il y a l'idée chez eux deux, finalement, tout à fait en affinité, que comme dit Bergoglio, La synagogue et la paroisse nous obligent à prendre soin de nos frères. Elles placent leur religion sur le terrain, dans l'action. Et il ajoute, toujours le cardinal Bergoglio, « Je ne me mêle pas de politique. Je me mêle de la chair de mon frère qui travaille en usine dans des conditions proches de l'esclavage. » Et Scorca, son ami rabbin, cite alors le prophète Isaïe, « Ne t'esquive pas devant celui qui est ta propre chair. » Et là, on a presque une amitié très proche au niveau, je dirais, d'une sorte de petite controverse, comme si c'était entre deux amis juifs. Bergoglio ajoute, « Pour ma part, j'utilise une traduction de ce verset qui dit « N'aie pas honte de la chair de mon frère ». Alors, voyez, par cet exemple dans ce livre, on a déjà cette affinité et cette amitié si directe entre un cardinal devenant pape et un rabbin qui devient presque son conseiller.
Il y a une telle bonté, un tel partage entre ces deux hommes qu'on y croit véritablement, et je pense que ce n'est pas du tout factice. Vous avez évoqué quelque chose qui est de l'ordre du concret. Je pense que peut-être que c'est ce concret et cet exemple de leur amitié qui peut fonctionner. Mais et il y a dans ce livre une phrase que vous avez aussi notée dans votre recension. C'est cette phrase qui concerne la boue. Qui concerne la boue, je cite la phrase du rabbin Scorca. Il dit « Le culte n'a de sens que si l'on est proche de l'autre, sinon ce n'est pas un culte. À qui et à quoi vouons-nous un culte ? La question est essentielle. C'est pour cela que je dis souvent que le prêtre ou le rabbin doivent mettre les pieds dans la boue. Le temple n'est qu'un élément du religieux. Le temple qui ne se nourrit pas de la vie et qui ne la nourrit pas en retour » est un temple païen. » À ce moment-là, le pape répond « Je suis absolument convaincu qu'ils doivent mettre les pieds dans la boue. Les curés ne portent plus la soutane aujourd'hui. Un prêtre récemment ordonné qui, lui, le faisait, s'est attiré des critiques. Alors il a demandé à un prêtre sage conseil « Est-il mal de porter la soutane ?» Et le sage lui a répondu « Le problème n'est pas que tu la portes, mais que tu saches la retrousser lorsque le service des autres l'exige. » Bruno Charmé.
Exactement. On retrouve cette intuition première dont on parlait tous les deux et d'autres passages, si vous voulez, qui vont dans ce sens sont en quelque sorte les suivants. À une autre page, le rabbin Scorca affirme « Le culte n'a de sens que si l'on est proche de l'autre, sinon ce n'est pas un culte. » Et son ami, le cardinal Bergoglio, lui répond « Je suis absolument convaincu » On redit ce qui était dit tout à l'heure, qu'ils doivent mettre les pieds dans la boue. Effectivement, c'est un leitmotiv qui revient constamment. Peut-être pouvons-nous élargir ce dialogue en disant que dans d'autres pays, en Amérique latine, je pense par exemple au Brésil, à Sao Paulo, il y a aussi un effort concret de faire par exemple des soupes populaires, notamment je pense à Sao Paulo, entre le rabbin et le cardinal, en l'occurrence le cardinal Oumès et le rabbin dont j'ai actuellement oublié le nom, Sobel. Si. Donc il y a quelque chose en Amérique latine peut-être que nous avons perdu, peut-être lié justement à la grande pauvreté du tiers-monde. Et je pense qu'à Rome, le pape François donne une nouvelle fraîcheur au christianisme.
Oui. C'est une nouvelle fraîcheur, moi je dirais, on la ressent très très bien dans ce livre, une dynamique, un des mots qui revient le plus souvent dans la bouche du pape François, en tout cas à l'époque de ce livre en 2010, c'est le mot « chemin ». Et il parle du chemin, il faut cheminer ensemble. Et c'est ce qui est important pour lui, c'est l'acte fait ensemble qui est un exemple pour les autres. Et je pense à cette anecdote qu'il raconte dans le livre, et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important que je la reprenne. Il dit au rabbin Scorca, c'est le rabbin Scorca qui lui rappelle que qu'il prenne son poste de cardinal de Buenos Aires, lorsqu'il y avait la fête nationale, le président de la République sortait avec le cardinal, et tous les autres restaient figés comme des statues. Et Bergoglio Et le rabbin lui dit, mais ça, c'est vraiment resté gravé dans mon esprit. Et Bergoglio lui répond, je dis Bergoglio, c'est pas très... Donc, le pape François répond, vous vous souvenez certainement, ou vous vous en souvenez certainement, quand je suis devenu archevêque de Buenos Aires, la tradition voulait que, lors du Tédéum, j'accompagne le président jusqu'au portail. Vous autres, les représentants des autres confessions, restiez à votre place, comme des statues dans un musée. J'ai fait évoluer cette tradition. À présent, le président salue les représentants de toutes les religions. C'est un premier pas dans le sens que vous indiquiez. Depuis le 2009, la cérémonie comporte deux parties. D'abord, l'hymne traditionnel, l'action de grâce, l'homélie et l'oraison catholique. Et ensuite, chaque représentant de chaque confession fait sa propre oraison. Il y a une plus grande implication à présent. Et Scorca lui répond, ce sont des gestes très importants. C'est une manière de montrer, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire de rendre visible, non seulement l'importance du dialogue interreligieux, mais l'amitié. Et je crois que ce que fait le pape François, c'est cette présence en acte des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui se paye de mots, c'est un homme qui est dans l'acte, comme il le dit à un certain moment, quand il confesse les personnes en leur demandant s'ils ont donné de l'argent. Et les gens sont un peu à des pauvres, ils sont un peu rouges. Et après, quand ils disent oui, ils demandent « Est-ce que vous les avez regardés ?» Et quand ils voient qu'ils sont un peu gênés et où ils répondent positivement qu'ils ont regardé la personne, il leur dit « Mais est-ce que vous lui avez touché la main ?» Et donc, il y a quelque chose ici d'un engagement éminemment concret. Je crois que le mot que vous avez utilisé au début dans la citation, c'est « la chair de mon frère qui m'importe ». Et ce que l'on retrouve ici dans toutes ces citations. Et donc, je relance ma question. Quelle est l'espérance que nous avons de cette visite, de ce voyage? Et j'indique quelque chose qui sera peut-être indiqué par tout le monde, mais comme on enregistre avant, je ne le sais pas. C'est que le 25 mai, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale en Argentine. Et donc, le choix du pape François de se trouver précisément à ce moment-là à Bethléem, je crois que ça a une portée absolument fondamentale. Bruno Charmé.
Alors, je pense, à travers ce dont vous avez très bien parlé, que nous assistons, tout en restant tout à fait dans le concret, dans ce que j'appellerais une théologie en acte. C'est-à-dire que, pour revenir un tout petit peu en arrière, depuis Vatican II, depuis les années 65, depuis Nostra Aetate, Juifs et chrétiens, nous considérons comme copartenaires de l'Alliance, la Berite, l'Alliance éternelle, l'unique Alliance de Dieu. Benoît XVI a beaucoup développé ça aussi. Et je dirais que c'est une concrétisation, peut-être encore plus avec le pape François, de ce copartenariat permanent que nous pratiquons jour après jour, aussi bien l'amitié judéo-chrétienne qu'ailleurs, entre Juifs et chrétiens. Je dirais que c'est cela la racine qui nous fait vivre aujourd'hui et c'est pour moi la réponse que je donnerai à tous ces actes et j'ai une grande espérance, notamment pour le lundi 26 mai 2014, dans les visites. Bon, il n'aura pas été le premier, Dieu merci d'ailleurs, puisque Jean-Paul II et Benoît XVI l'auront précédé pour aller au Kotel, au mur occidental du Temple, mais je suis sûr que il donnera une touche personnelle, notamment avec la présence à côté de lui de son grand ami, le rabbin Scorca. De même, la visite à Yad Vashem, on va voir. Je pense que là encore, il peut y avoir des témoignages, et pas seulement des discours très forts. Les deux grands rabbins, si je puis me permettre, je pourrais rappeler un exemple que mon ami le père Desbois, que vous connaissez, donnait. Je suis allé en Israël en octobre dernier, pour l'inauguration du mémorial Lustiger dans la merveilleuse abbaye bénédictine d'Abou Ghosh. Et je n'étais pas naturellement à cette délégation, mais privé entre les deux grands rabbins d'Israël et le cardinal 23, le cardinal Ricard. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi une espérance, nous, en tant que chrétiens, à l'égard du judaïsme, y compris en Israël. Les deux grands rabbins ont dit, mais cette fois-ci, nous ne voulons pas uniquement parler de l'alliance noachique, qu'on pourrait dire loi naturelle, universelle, mais nous allons travailler ensemble pendant une demi-heure sur les 10 paroles, ce que nous, chrétiens, disons plus familièrement, les 10 commandements. Pour nous, c'est très important, et je reviens au copartenariat dans l'Alliance, ça signifie beaucoup plus que nous ne sommes plus considérés uniquement comme des goyim, mais comme des personnes partageant d'une certaine manière un peu l'élection éternelle d'Israël, vous voyez, et que les deux grands rabbins d'Israël aient travaillé avec le cardinal 23, archevêque de Paris, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, sur les 10 paroles, et pour nous aussi un encouragement.
Alors je crois que ce que vous venez de dire est absolument essentiel, et j'ai relu pour préparer cette émission ce texte qu'on appelle Nostra Aetate, et j'aimerais que vous relisiez, si vous voulez, le début de ce texte, parce qu'il est tellement admirable. Je crois que ça serait une mitzvah, c'est-à-dire véritablement un commandement que juifs et chrétiens puissent relire ensemble ce texte qui est, on ne va pas le lire en entier, mais ne serait-ce que le début, c'est absolument époustouflant, parce que ce texte n'a pas pris une ride, si on peut dire. Et il y a un tel courage de la part de l'Église dans sa transformation vis-à-vis de la théologie des autres nations, que je crois que cela déjà, comme on dit en hébreu, daïenu, cela nous aurait suffi si on n'avait que ce Nostra Aetate. Bruno Charmet, je vous écoute.
Alors, ce qui est absolument essentiel, c'est naturellement le paragraphe 4, la religion juive. Ce qui est extraordinaire, ce sont pour moi les premières paroles, je les rappelle. Scrutant le mystère de l'Église, le Saint-Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Et vous voyez, par rapport à toute autre religion monothéiste, en l'occurrence l'islam, là, il y a ce que dit Benoît XVI par ailleurs, une affinité intérieure que nous partageons uniquement avec nos frères aînés, le peuple juif. Il y a donc, à l'intérieur même du mystère de l'Église, donc de la foi chrétienne, une racine qui nous porte, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitres 9 et 11, « Nous n'avons pas besoin d'une extériorité, et comme disait le cardinal Etchegaray, il joue sur une certaine ambiguïté, mais pour faire comprendre les choses, le judaïsme, disait-il avec un jeu de mots, ne nous est pas intérieur, il ne nous est pas antérieur, il nous est intérieur. Mmh. » Bon. Ça fait comprendre quand même cette racine qui nous parle, dont parle saint Paul, qui fait que, comme disait Jean-Paul II en 1986 dans la grande synagogue de Rome, vous êtes nos frères préférés.
Oui, moi je reviendrai sur la première phrase de ce Nostra Aetate. À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples se multiplient, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Et on pourrait lire, mais c'est un très long texte, mais on va y revenir après une pause musicale.
Esclarada de penúltimo ligera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, ven y volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco.
Bruno Charmé, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai passé cette musique. C'était la petite surprise de Talmudic, doublement. Parce que dans un entretien à un magazine qui demandait au pape François est-ce qu'il aimait le tango, il répondit énormément. C'est une musique profondément ancrée en moi. Je crois connaître assez bien les deux époques du tango. En ce qui concerne la première, j'ai un faible pour D'Arienzo. Côté chanteur, ma préférence va à Carlos Gardel, Julio Sosa et Ada Falcón, qui est depuis devenue nonne. Et il dit, mais quant à la version moderne du tango, j'aime beaucoup Astor Piazzolla et à Amelita Baltar, sa meilleure interprète, qu'on vient justement d'entendre. Mais nous, à Talmudic, on a encore un faible particulier, parce que le générique de Talmudic que vous entendez, que beaucoup de personnes pensent être de la musique klezmer, est en fait une musique de Astor Piazzolla. On sent chez ce pape, on parlait des pieds dans la boue, de cette théologie en acte, mais beaucoup d'humour. Il parle dans ce livre, il parle des filles ou d'une fille qu'il a aimée quand il était jeune. Il a beaucoup de lucidité. Il dit, moi j'aime bien, c'est son humour, il dit, dans l'église occidentale à laquelle j'appartiens, les curés ne peuvent pas se marier comme on le fait dans l'église byzantine, ukrainienne, russe ou grecque. Là-bas, les prêtres peuvent se marier, pas les évêques qui doivent rester célibataires. Ce sont d'excellents curés. Il m'arrive de les taquiner, de leur dire qu'ils ont une femme à la maison, mais qu'ils ne se doutaient pas qu'ils auraient aussi une belle-mère.
Oui, alors c'est tout l'aspect si sympathique et spontané du pape François. On pourrait aussi ajouter, j'en ai très très heureux, de découvrir que c'était un grand ami et un grand lecteur de Jorge Borges aussi, oui. Tout autant.
Oui,
c'est toute la culture argentine.
Alors, c'est un lettré, on attend beaucoup de lui, on vient de le voir dans la première partie de cette émission. Et ce qu'il me semble important, on a souligné son amitié avec le rabbin Skorka, on a dit aussi qu'il est accompagné d'un personnage important pour l'islam. En tout cas, c'est son ami Omar Aboud, qui est directeur du Centre islamique d'Argentine ou de l'Institut de dialogue interreligieux depuis 2006. Et je me suis demandé, c'est une question très, très difficile que je vais vous poser, parce que j'aurais aimé entendre de votre part un petit peu parler des amitiés judéo-chrétiennes, son histoire, mais je me suis demandé si le pape François, qui est un pape qui montre l'exemple, qui aime les images fortes, est-ce qu'il ne dit pas, par ce triumvirat qu'il est en train de montrer à l'humanité, qu'il faudrait transformer les amitiés judéo-chrétiennes en amitiés juives, chrétiennes et musulmanes? Et peut-être que, à ce moment-là, dans cette amitié montrée, dans ce dialogue, dans cette étude des textes communs ensemble, il y aurait peut-être cette nouvelle voie dont j'ai parlé au début que proposerait le pape François. Bruno Charmé.
Oui, ça a été un long débat qui n'est pas fini dans notre association. Nous avons quelquefois invité des musulmans. Je pense par exemple à notre ami qui a fait ce livre chez Albin Michel de l'histoire des relations entre juifs et musulmans,
oui,
Abdelwahab Medeb, oui, que nous avons invité dans notre association, oui, en compagnie du rabbin Crigier.
Oui.
Donc nous continuerons à travailler ensemble. Cela dit, comme je le disais un petit peu au début de l'émission, il y a à côté de nous, et nous sommes en lien, la fraternité d'Abraham qui réunit les trois religions monothéistes, mais nous tenons en même temps à la spécificité unique du lien qui lie de façon particulière les juifs et les chrétiens.
J'entends, je veux dire que c'est une réflexion extrêmement intéressante. J'essayais de comprendre par rapport à ce geste du pape François, est-ce qu'il n'y avait pas, de la même façon qu'à un certain moment, dans sa cathédrale de Buenos Aires, cet exemple qui a permis de faire bouger les choses. Je me disais que le temps est venu, c'est notre, on pourrait dire, notre Nostra Aetate, de faire bouger les choses, parce que je pense que et s'il voulait parler des juifs et des chrétiens, je ne suis pas sûr qu'il aurait été simplement il aurait été peut-être à Bethléem, il aurait peut-être été à Jérusalem, mais là il veut peut-être montrer quelque chose d'essentiel de cette triade de dialogue qu'il faudrait commencer aujourd'hui.
Oui, j'entends bien. Je pense qu'il y a aussi de notre part donc tout un prolongement à continuer de ce côté-là. C'est effectivement quelque chose qui d'ailleurs avait été initié par les précédents papes depuis le Concile, puisque vous parliez de Nostra Aetate, mais les premiers chapitres concernent justement notamment la relation avec l'islam.
Oui.
Donc il faut effectivement penser à un tout, tout en maintenant quand même cette spécificité.
Alors c'est très important cette dernière remarque que vous venez de faire, la spécificité. Parce que ce qui revient de manière très très forte dans ce livre, mais je pense dans tous les écrits et tous les propos du pape François, c'est la volonté, comme il le dit, de cheminer ensemble, main dans la main, sans aucun syncrétisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par ses relations, par ses dialogues, par ses amitiés, que les uns ou les autres puissent perdre leur spécificité, leur foi et leur rite. Bruno Charmé.
Ah, mais ça, c'est absolument évident. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui est présent, je dirais, depuis le début du dialogue judéo-chrétien. Je pense particulièrement à Benoît XVI, dans la synagogue de Cologne, lors des Journées mondiales de la jeunesse, qui avait plutôt axé, d'ailleurs, son discours sur les différences que sur, forcément, un rapprochement possible. Il y a toujours un balancement, il faut tenir cette unité, à la fois des différences et des racines communes. C'est effectivement essentiel pour toute forme de raison et notamment parfois une fascination de part et d'autre qui n'est pas du tout de bon aloi.
Oui. Et alors, si on revient aux amitiés judéo-chrétiennes dont vous êtes le directeur actuellement, il serait peut-être important d'en dire quelques mots pour, je dirais, terminer, pour clore, c'est-à-dire en fait pour ouvrir ce dialogue, pour continuer à l'ouvrir.
Notre amitié judéo-chrétienne de France a commencé en 1948, donc 3 ans après la Shoah, par Jules Isaac. Une partie de sa famille avait été exterminée à Auschwitz. Et pour en revenir à l'histoire des papes récents, il y a eu une accélération dans l'histoire de notre association avec la rencontre de Jules Isaac avec Jean XXIII en juin 1960, donc 2 ans avant l'ouverture du Concile, où l'entretien se termine par ces paroles célèbres de Jean XXIII, « Vous avez droit à plus que de l'espoir ». Ensuite, avec Paul VI, souvent ou malheureusement oublié, il y a eu pas forcément des amitiés juives, mais je dirais une grande amitié avec Jacques Maritain. N'oublions pas qu'en 1965, il y a la sortie chez les Clés de Brouwer du grand livre de Jacques Maritain, « Le mystère d'Israël », et c'est l'année aussi de la déclaration Nostra Aetate. Et puis Jean-Paul II, donc avec son amitié, on n'en a pas encore parlé, avec Jerzy Kluger, un ami juif d'enfance. Et laissez-moi dire ces quelques petits mots de Jean-Paul II qui sont quand même bouleversants. Il disait ceci à la fin de sa vie, Jean-Paul II. « Le meilleur ami qu'il me reste de mon enfance est un juif. Il s'était connu à Wadowice, dans le petit village près de Cracovie. C'est grâce à lui que, depuis toujours, je considère les juifs et les chrétiens comme des amis plutôt que comme des rivaux. » Et puis avec Benoît XVI, on a son amitié avec Jacob Neusner. Alors là, c'est plus un aspect théologique, un travail sur le pharisianisme de Jésus, en quoi Jésus est proche des pharisiens, mais en même temps, c'est pas un pharisien ordinaire. Et puis, on l'a dit, la grande amitié du pape François avec donc le rabbin Skorka. Donc il y a toute une généalogie quand même qui remonte à 50, 60 ans et qui ne fait qu'approfondir le dialogue.
Qui fait approfondir le dialogue entre les juifs et les chrétiens et qui est peut-être enfin, l'ensemble de ce que vous venez de décrire, je reviens sur mon idée, un exemple, une amitié en acte ou une démonstration de la possibilité de faire avancer les choses. Et peut-être que cette amitié judéo-chrétienne peut permettre une nouvelle voie et donner des idées pour la résolution des conflits dans cette partie du monde.
Ah, j'en suis persuadé. Vous voyez, notre ami commun, le rabbin Serfati, est venu un jour me voir et il me dit, écoutez, on va fonder, nous, l'amitié judéo-musulmane. Ça devait être en 2002-2003. Je veux les statuts de l'amitié judéo-chrétienne, car pour moi, ils sont un exemple. J'ai trouvé ça formidable. Et depuis, cette amitié judéo-musulmane, d'ailleurs, me fait penser à l'amitié entre Bergoglio et Skorka, car vous savez qu'il y a un bus de l'amitié entre juifs et musulmans, et ça, si ce n'est pas une théologie en acte, ça c'est quand même assez extraordinaire. Mmh. Et nous, amitié géochrétienne, vous me demandiez tout à l'heure, on aide actuellement et depuis longtemps le rabbin Serfati pour, modestement, mais des relations aussi entre juifs et musulmans en France.
Merci beaucoup Bruno Charmé pour cette passionnante conversation. Je sais que vous avez une annonce à faire sur une activité importante qui va se dérouler au mois d'août.
Oui, tout à fait. Figurez-vous que le rabbin Skorka, dont nous avons longuement parlé, va présider le grand rassemblement mondial annuel des amitiés judéo-chrétiennes qui se déroulera donc à Buenos Aires du 19 au 21 août prochain. Ce sera... Toute indication marquée, donc, ce sera sur le site de l'ICCJ, l'Amitié judéo-chrétienne internationale, et sur notre site français, agicf.fr.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui, à la technique, Alison Akrisi, à la réalisation, Dany Journeau. Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.